Didier Touvron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat aux élections municipales à Surgères, vous êtes conseiller municipal d'opposition et vous représentez la liste Surgères à gauche comme en 2020. C'est votre deuxième participation à ce scrutin. Il y a 6 ans, vous étiez arrivé en troisième position derrière Catherine Després qui a été élue maire et Younes Biar. Vous aviez totalisé 19,04% des voix. Vous espérez faire mieux cette année ?
Quand on se présente, on espère toujours faire mieux. Et je crois que c'est un enjeu quand on rassemble l'ensemble de la gauche et des citoyens qui sont aujourd'hui sur des valeurs du partage, du commun. Je pense que c'est une ambition qui est aujourd'hui tout à fait valable, encore une fois, et qui peut permettre de changer la vie et la ville de Surgères et des habitants.
Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous ? Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Et pourquoi vous présentez-vous à cette élection ?
Donc, Didier Touvron, j'ai 66 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis un militant communiste. Et donc, rassembler la gauche, ça a été toujours une valeur importante pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'unité, on a besoin d'être au plus près des gens. Et je pense qu'une commune, c'est le meilleur endroit pour rassembler les gens, pour répondre à leurs besoins et être face aussi en termes de démocratie, au plus près des habitants pour qu'ils puissent vous parler, vous regarder, écouter également ce qu'on dit et regarder ce qu'on fait et voir les différences pour pouvoir avancer ensemble.
Alors justement, pour remporter ce scrutin, vous misez sur un programme co-construit avec les habitants de la ville. C'était une priorité absolue pour vous ?
Tout à fait. Nous avons déjà fait 2 réunions publiques et qui a permis de mettre en débat la justice sociale, la démocratie, les questions environnementales. Et du porte-à-porte, être sur la place publique et co-construire avec les gens, c'est quelque chose d'essentiel. Mais pas simplement dans les mots, c'est vraiment des actes. Donc nous avons fait des ateliers avec des habitants. Nous sommes à peu près 120, 130 personnes qui sont venues sur notre réunion publique et qui permet aujourd'hui de récolter les besoins, d'écouter, d'entendre et de permettre de rédiger ce programme. Il faut savoir que sur une mandature de 6 ans qui vient de s'écouler, ça a été aussi le moment de rayonner, de récolter, d'entendre et de participer au conseil municipal et de prendre régulièrement des positions qui ont permis de faire avancer les idées de cette gauche rassemblée, mais au-delà de la gauche, il y a aussi des citoyens, puisque sur notre liste, il y a 25% de personnes qui sont encartées, je dirais, et les autres, c'est des gens qui sont engagés dans la citoyenneté, dans l'associatif.
Alors, vous avez pris 6 engagements hein, pour ce mandat, si vous êtes élu. Lesquels ? Le logement sera vraiment l'une des priorités ?
Oui, le logement, mais pas que. Mais si on commence par le logement, oui, on est sur un permis de louer. La question du logement social sur Surgères, c'est 8,3% du logement qui est considéré comme social. Donc on dépend pas de la loi SRU qui prévoit 25%, mais nous on dit que doubler le logement social, c'est quelque chose qui est essentiel par rapport au nombre de demandes qu'il y a sur le département, mais même à Surgères aujourd'hui, les populations et des familles sont attendent très longtemps. Je crois que dans un des derniers articles qu'on a pu voir, c'est 36 mois, je crois, pour avoir un logement. Donc aujourd'hui, c'est essentiel. Et également,
on est loin de l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. Et puis le nombre de logements vacants sur Surgères, c'est plus de 11% de logements vacants. Il y a besoin de réfléchir justement, parce que quand j'évoque la question du permis de louer, c'est aussi de regarder comment on peut aider des propriétaires qui ont des logements vacants. Alors il y a plusieurs raisons. Hein. Ça peut être de l'impossibilité de rénover. Ça peut être des logements qui sont au-dessus de commerce. C'est des logements également qui peuvent être voilà, où les personnes ne peuvent pas rénover. Et donc, c'est comment on aide ces propriétaires, mais peut-être imaginer également de mettre une taxe quand les logements ne sont pas rénovés ou ils restent vacants, parce que aujourd'hui, je pense que le logement social, c'est faire en sorte que les propriétaires les aider pour améliorer leur logement et faire en sorte peut-être qu'ils rentrent dans le logement social avec des accords avec les offices HLM.
Alors, vous souhaitez doubler le nombre de logements sociaux, c'est concrètement, c'est réalisable ?
Ben oui, ça peut être réalisable. Je pense également depuis plus de 10 ans, des nouveaux lotissements rentrent dans la vie et avec 10% de logements qui sont prévus sociaux, on pourrait imaginer que ça aurait pu augmenter depuis le nombre de logements. Non, c'est toujours le même taux depuis plus de 10 ans et il a même un petit peu baissé. Donc on peut imaginer qu'on pourrait faire aussi un taux plus important de 30% de logements sociaux pour permettre de faire évoluer ça. Et en même temps, c'est des accords avec l'office HLM départemental à construire justement pour regarder un petit peu comment on peut aujourd'hui augmenter. Dans des tournées qu'on a fait sur Yolande, par exemple, il y a des logements qui sont vacants depuis de nombreux mois. Et ça interroge au moment où l'offre et la demande ne correspondent pas et comment on agit.
Alors la question de la santé et de l'environnement seront également au cœur de vos préoccupations. Vous comptez notamment interdire les pesticides près des zones habitées.
C'est un sujet où aujourd'hui, quand on regarde les départements, et je pense que en termes de communication, que ce soit dans la presse ou audio, on entend régulièrement que le département de la Charente-Maritime est un département qui est un des plus pollués de France.
Et notamment le Nice, effectivement.
Et le Nice, avec aussi des cancers pédiatriques, hein, faut l'avoir en tête. Et on s'interroge, nous aussi, sur la qualité de l'air, de l'eau, et comment aujourd'hui on essaye d'informer les populations sur ces dangers. On parle également, quand on parle de ça, c'est par rapport à la cantine bio, par exemple, où la loi Egalim prévoit 20%, et au niveau de Surgères, puisqu'il vient d'avoir le label bio, on est un peu plus de 30%. Mais par exemple, si on veut aller à 100% de bio, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est avoir des paysans qui puissent cultiver en bio? Est-ce qu'il y en a assez? Il faut avoir du foncier. Et par exemple, il peut y avoir des terres sur les communes, peut-être qu'on pourrait imaginer pour faire du maraîchage autrement, et puis pour augmenter aussi le nombre de repas bio à la cantine.
Toujours dans le domaine de la santé, vous souhaitez mettre en place, si vous êtes élu, des actions concrètes et des mesures pour favoriser l'accès aux soins des habitants.
Oui, mais c'est la priorité à la création d'un centre de santé. Un centre de santé, c'est un centre qui recrute des praticiens salariés et c'est aussi beaucoup de prévention. Donc c'est aussi un travail. Quand on le dit souvent, on essaye d'opposer peut-être les libéraux avec ce système-là, mais je pense qu'il faut de la complémentarité. Aujourd'hui, sur Surgères, une femme veut faire une mammographie. Sur le département, il y a beaucoup de retard. Il faut des fois, on marque 6 mois de façon globale, mais des fois, il faut un an et demi. Et il y a des questions de mobilité. C'est-à-dire que pour avoir une mammographie, il faut aller à Royan. Il y a des femmes qui vont à Bordeaux, à Poitiers, ou même à Paris. Par exemple, dans l'Hérault, ils ont mis une mammobile en route qui permet d'intervenir sur le département sans rendez-vous, qui se déplace et qui peut permettre de faire le diagnostic. Parce que la prévention, c'est bien, mais il faut des diagnostics. Autrement, tout retard de diagnostic, c'est des possibilités d'avoir, par exemple, un cancer qui n'est pas détecté. Et je pense que ça, c'est super important.
Trouver un généraliste, ça
tout à fait.
Du parcours du combattant.
Alors, sur notre communauté de communes, comme à Surgères, hein, le nombre de nouveaux habitants qui arrivent ne trouvent pas de médecin référent. Et ça, c'est aussi une problématique. On est dans une zone dite par l'ARS fragile. Et donc, ça veut dire qu'un centre de santé, quand je reviens sur le centre de santé, c'est aussi les moyens pécuniers et financiers que peut donner l'ARS, que peut donner la caisse primaire d'assurance maladie, que peut donner la région. Donc, il faut faire un état des lieux, un véritable état des lieux, et puis regarder les possibilités de travailler ensemble et regarder le financement, le cofinancement qu'on peut construire. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, les centres de santé sont en augmentation, et que ce soit des villes de droite ou de gauche, aujourd'hui, beaucoup d'élus essayent de trouver des solutions, et je crois que c'est une des solutions qui permet non seulement de soigner au plus près, qu'il n'y ait pas par rapport aux tiers payants, également sur la question de la prévention.
Il y a le manque d'attractivité qui peut représenter également un problème, un frein pour faire venir les praticiens?
Je crois qu'il y a des aides aussi, hein, même au niveau du département, pour installer un nouveau médecin. Alors, j'ai plus les montants, mais c'est des sommes qui sont assez importantes pour regarder comment on peut faire venir. Et puis, je crois qu'il y a des moyens logistiques, c'est-à-dire tant au niveau du logement, du matériel. Il y a aussi des investissements qui peuvent être faits auprès du département ou de la région sur ce niveau-là et qui peuvent permettre d'installer des praticiens. C'est pas une évidence, c'est un travail en collaboration avec l'ensemble, je dirais, même de la communauté de communes sur ce sujet-là. Parce que ça touche des petits villages aujourd'hui qui n'ont même pas de médecin.
Alors, autre engagement de la liste Surgères à gauche, c'est le soutien à la jeunesse en développant des actions concrètes, mais pas seulement au tissu associatif également.
Oui, la jeunesse est une préoccupation importante. Des fois, on dit, mais elle est où la jeunesse à Surgères? Et c'est vrai qu'il y a eu une foire, il y avait la foire où on avait été au contact un petit peu de la jeunesse, il y avait beaucoup de jeunesse qui était là. Et en fait, quand on leur posait la question, vous êtes où? Ils disaient, on est par exemple devant le McDonald's, ou on est dans nos appartements, ou ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire à Surgères? Quels sont les espaces où on peut vivre, créer, faire des choses? Et donc, en discutant avec eux, puis en travaillant sur ce sujet-là, on s'est dit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace. Il y a eu un engagement à un moment donné, je crois qu'en 2020, de Catherine Després, qui était aussi de faire un lieu. Ça n'a pas été réalisé. Nous, on pense qu'il y a besoin d'un lieu, d'espace créatif, peut-être de faire de la musique, de la répétition, de la mise en scène, avec un pour et par les jeunes, et encadré par un professionnel qui pourrait permettre d'aider et de faire en sorte que, sans doute dans un cadre bien bien fixé, mais aussi travailler la question de la citoyenneté, parce que je pense que c'est important. Et puis ça veut dire que les jeunes aussi, à Surgères, c'est comment ils peuvent accéder au logement, c'est la notion du travail quand on a de la formation. Est-ce que les jeunes restent? Non, ils partent. Ils partent de Surgères et c'est aussi la question de la ville qui est posée, de sa pérennité, parce qu'aujourd'hui, Surgères, c'est aussi 39% des personnes qui ont plus de 60 ans. Alors parce que souvent on parle de sécurité, et je pense que la sécurité, c'est pas que l'aspect. Je pense qu'il y a un aspect préventif. Et quand on parle
ça
de sécurité,
ça passe par l'éducation, ceci.
L'éducation, ça veut dire également la question de l'alimentation. C'est une sécurité si on est bien nourri, si c'est sain. Et donc c'est aussi de la proximité avec la police municipale. C'est aussi des liens avec les associations. Pour revenir à ce que vous évoquez, les associations, et c'est pour ça qu'on porte la question d'une maison de la citoyenneté.
Il faut trouver un lieu, des compétences.
Mais tout à fait. Et je pense que si là il faut peut-être un personnel, c'est élargir la notion de service public territorial, parce qu'aujourd'hui le service public c'est quelque chose qui est essentiel pour la population. Lorsque ça diminue, ben ça enlève ce bien commun. Et la maison des associations, lorsqu'il y a presque 100 associations sur Surgères, c'est répondre à des besoins logistiques, mais aussi avoir des salles. C'est aussi un moment où on peut se retrouver avec des compétences de cette éducation populaire de mettre en avant, qui permet de construire aussi l'avenir des habitants et l'avenir d'une ville.
Ça relève de la compétence communale. Est-ce que ça passe aussi par le soutien de l'intercommunalité aussi?
Moi, je pense que tous les sujets, 24 communes sur Onis-Sud, c'est tout ce qu'on fait, je pense, c'est pour le commun. Je rappelle que les élus municipaux de Surgères seront représentés à hauteur de 9 conseillers communautaires. Et c'est un enjeu même pour la présidence, parce que quand on porte la question de Surgères à gauche, et il faut qu'il y ait une présidence. Alors si on était élu, on peut aussi proposer d'avoir la présidence. Mais la question, c'est de trouver des alliés qui portent cette question démocratique, écologique et de la solidarité, de la citoyenneté. Et donc c'est trouver cette présidence possible avec ces personnes qui pourraient être porteurs de cette ambition.
Alors justement, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la CDC Onis-Sud?
En fonction du résultat, on peut toujours regarder, mais c'est pas une priorité. Comme je vous le disais précédemment, c'est trouver le candidat qui soit à même de porter les valeurs que l'on porte pour l'ensemble de la communauté et des habitants.
Toutes les actions que vous avez évoquées et votre programme, vous les présenterez lors d'une dernière réunion publique?
Oui, le jeudi 5 mars à 18h30 à la salle du Lavoir. C'est un moment important. 2-3 fois par semaine, nous faisons du porte-à-porte avec l'ensemble de l'équipe et c'est un moment de contact régulier avec des choses peut-être qu'on ne fait pas au quotidien, et je pense que ça serait une priorité lorsqu'on est élu d'être sur la place du marché, à la rencontre des habitants, avoir des conseils de quartier où on est à la rencontre, on récolte les besoins et puis on peut regarder de réaliser tout ça. C'est pour ça que la démocratie participative, comme on l'a évoqué, avec un budget participatif à hauteur de 5%, ce n'est pas rien. En 2025, le budget a été à près de 9 millions du budget d'investissement. 5%, ça représenterait 400 000 euros. Alors, on peut dire un peu moins, peut-être. On pourrait être sur du 2,5-3 qui fait 220 000, 250 000 euros, qui permet peut-être aux habitants de choisir un projet, de l'élaborer, et puis après, on voterait pour celui qui serait le plus respectable, ou celui qui peut correspondre à l'ensemble des habitants.
Didier Touvron, pour terminer cet entretien, quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs?
Eh bien, écoutez, le message que je veux adresser à l'ensemble des électeurs, c'est de faire du 15 mars un moment important pour leur vie, pour la ville. C'est de permettre de changer peut-être leur quotidien autrement, d'être écouté. La question, je répète, de la démocratie, de la question de la solidarité, des questions environnementales, c'est un projet que l'on porte fort et on le fera totalement avec eux.
Didier Touvron, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.